Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi.
Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus et vous allez écouter Angle d'attaque, attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Angle d'attaque est une émission proposée par Attaque Métropole avec Florent. Florent qui a fait parler de lui dans les réseaux sociaux et dans les commissariats pour avoir agressé le 31 mars les forces de l'ordre. Une photo qui circule sur le net montre cette agression. On voit Florent rouler en boule sur les pavés lillois, agressant 5 forces de l'ordre qui, pour se défendre, brandissent leur matraque. C'est bien la preuve de la peur que leur inspire Florent. Rassurez-vous, Florent est bien parmi nous avec une nouvelle paire de lunettes. L'autre paire, son arme favorite dans les bagarres de proximité, a été perdue. Ça va, Florent ?
Tout va bien.
Bon, écoute, on en reparle tout à l'heure. Hein. René Lascience et Christian sont bien sûr à votre service et constamment. Le thème d'aujourd'hui, ça ne surprendra personne, à avoir avec Madame El Khomri et la loi travail. Notre interlocuteur était à Dunkerque mardi soir. Nous avons enregistré notre entretien téléphonique. Et notre interlocuteur, c'est Thomas Dallery, maître de conférence à l'Université du Littoral. Il est membre des économistes atterrés. Vous savez, ces économistes qui se déclarent atterrés par les politiques économiques menées depuis 20 ans et plus en France et en Europe. Avec Tristan Auvray et Sandra Rigaud, Thomas a écrit « L'entreprise liquidée, la finance contre l'investissement » paru en mars 2016 aux éditions Michelon. C'est dire si on est dans l'actu. Ouvrage d'ailleurs qu'il a présenté hier soir à l'Amphi Archimède à Lille 1, amphi occupé par les nuits debout de Lille, comme chacun sait. Enfin, nous avons pris comme base de discussion pour notre entretien un article des trois mêmes maîtres de conférence paru dans un alter ego plus. Florent, tu es prêt ?
C'est bon.
C'est bon, on y va pour l'enregistrement. C'était pas ça. La loi El Khomri tente de nous faire accroire qu'un marché du travail toujours plus flexible sera créateur d'emplois. Primo, qu'est-ce qui permet une telle assertion ? Et secondo, on pourrait déjà objecter que le marché du travail est déjà pas mal flexible, non ? C'est toujours du plus ou toujours plutôt du moins pour les salariés ?
Eh bien, en fait, il y a eu une longue histoire d'études qui ont cherché à prouver que, justement, si on rendait les marchés du travail plus flexibles, on augmenterait l'emploi, on diminuerait le chômage. Donc c'est notamment l'OCDE, grande institution internationale, qui a cherché à prouver ça par des études statistiques, des études économétriques. Et malgré tous les efforts déployés, eh bien récemment, ils ont commencé à prendre leur distance avec cette idée-là et à ne plus défendre la thèse selon laquelle la flexibilité accrue du marché du travail serait bonne pour l'emploi. Donc quelque part, ici, on a le gouvernement français qui est un peu à contre-courant de ce qui commence à se dire dans les institutions internationales, puisque il n'y a pas que l'OCDE hein, qui commence à critiquer cette thèse de toujours plus de flexibilité qui serait bonne pour l'emploi. Vous avez le FMI qui a aussi eu tendance à reconnaître que la flexibilité n'aurait pas tendance à améliorer la productivité, hein, ce qui est pour les économistes dominants la clé de l'emploi. Si on est plus productif, on aura plus d'emplois. Eh bien, vous avez eu le FMI qui a dit non, la flexibilité ne permet pas d'améliorer la productivité, ça serait même plutôt l'inverse, avec la disparition d'emplois de qualité et l'apparition de ce que David Graeber, l'anthropologue américain, appelle les « bullshit jobs », des petits emplois de mauvaise qualité. Et puis toujours le FMI, qu'on ne pourra décidément pas considéré comme une institution de dangereux gauchistes, eh bien le FMI lui-même a fini par reconnaître que parmi toutes les institutions qui sont qualifiées de rigidité sur le marché du travail, eh bien on a le rôle des syndicats qui peut être bénéfique pour la société, notamment parce que le pouvoir des syndicats tend à limiter l'augmentation des inégalités. Donc il y a eu ce genre de résultat qui est aussi paru au niveau du FMI, ce qui est quand même un signe très étonnant quand on a tendance à écouter les politiques françaises inspirées par le gouvernement Valls, où on a des attaques contre les syndicats, une envie de faire toujours plus de flexibilité, et pourtant ça n'est plus le message des institutions internationales. Ça l'a longtemps été, ce message de toujours plus de flexibilité, à bas les syndicats, ça a longtemps été la doctrine qui portait au niveau des institutions internationales, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui, donc on a vraiment ce petit retard français qui est caractéristique en ce moment.
Mais pour l'expliquer, comment ce retard? C'est compliqué.
Oui, alors c'est toujours compliqué. On a toujours tendance à croire que la France a du retard par rapport à ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Hein. On est toujours en train de courir après un modèle. Il y a une sorte d'envie de vouloir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, hein, toujours comme si le modèle français n'avait rien de bon. Maintenant, il faut aussi se dire que derrière ces politiques économiques, il y a surtout une grande part d'idéologie. C'est-à-dire que vous avez, avec la flexibilité du marché du travail, un moyen de presser le salariat. C'est à ça que ça sert. C'est pas pour créer des emplois. Hein. C'est vraiment pour instaurer de la précarité sur le salariat pour réussir à obtenir ce qui est aujourd'hui dans la zone euro le totem de tous les gouvernements. On cherche à obtenir, par cette flexibilité, une modération des salaires. Une modération salariale. Et pourquoi on cherche à obtenir cette modération salariale? Eh bien parce qu'on pense qu'avec des salaires qui augmentent relativement peu ou qui ont même tendance éventuellement à baisser, on arrivera à gagner en compétitivité. C'est le leitmotiv qui est derrière cette réforme à mon sens. Hein. C'est on va essayer de gagner en compétitivité grâce à la flexibilité qui va précariser le salariat. Donc si vos salaires augmentent moins vite que ce qu'on a en Allemagne, on va progressivement gagner un peu en compétitivité, ce qui nous permettra à moyen terme d'exporter plus et éventuellement d'améliorer la croissance et l'emploi. Voilà le pari, je pense, qui est fait derrière ces politiques.
C'est vraiment un pari. René a une question.
Oui, c'est aussi un moyen de rediscipliner le salariat. J'ai entendu ça plusieurs fois.
Excusez-moi, j'ai mal entendu votre question.
Oui, c'est aussi le moyen de rediscipliner le salariat, je crois.
Ah oui, bien sûr, quand je dis moyen de rendre le salariat plus précaire, c'est aussi une arme effectivement de discipline. C'est-à-dire qu'avec la flexibilité, si vous êtes dans votre entreprise et que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne voulez pas accepter la politique du dirigeant de votre entreprise, eh bien, il y a plus de facilité pour vous écarter. Et c'est toujours ce qu'on appelait autrefois un effet armée industrielle de réserve qui va contraindre les gens qui sont en poste à accepter tout et n'importe quoi. Dans la loi travail, vous avez énormément de dispositifs qui sont potentiellement très régressifs pour les travailleurs. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les accords offensifs de compétitivité, c'est-à-dire obtenir soit une baisse des salaires, soit une augmentation du temps de travail sans revalorisation salariale, et tout ça au sein de votre entreprise, pour non pas éviter que cette entreprise ferme, mais pour essayer de gagner en compétitivité. Et le problème de la compétitivité, c'est qu'il n'y a aucune limite. À partir de quand est-on suffisamment compétitif? On pourra toujours essayer de défendre que cet accord est un accord bon pour augmenter la compétitivité. Et donc, il est aujourd'hui l'heure de revoir à la baisse vos prétentions salariales, de revoir à la baisse vos exigences, même en conditions de travail en général, et de prendre toujours plus sur votre dos en tant que salarié. Vous devez tout accepter parce que sinon, vous pouvez être plus facilement mis à la porte.
Et mettre le salarié seul en face du patron. Je crois que ça fait partie effectivement des choses actuellement prévues par la loi El Khomri, c'est d'éviter les syndicats et les branches professionnelles.
Oui, alors là c'est vraiment le... On est à contre-courant totalement du sens de l'histoire. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis la fin du 19e siècle et pendant le 20e siècle, tout ça, ça a constitué à créer un droit du travail où on évite le face-à-face soi-disant égalitaire entre un travailleur et un employeur. On a construit un droit du travail pour rompre l'insécurité énorme qui est celle du travailleur face à un employeur. Vous n'avez pas une symétrie entre les deux. L'employeur il va jouer sur la dépendance du travailleur pour lui imposer des conditions, parce que le travailleur, il n'a pas le choix. Il doit vendre sa force de travail pour survivre. Et donc, on avait constitué, pour rompre le chantage à l'emploi, qui était très facile si vous avez aucune protection sur le marché du travail, si vous êtes avec une force de travail qui est une marchandise comme une autre, on avait créé un droit du travail. Le droit du travail, sa vocation, qui s'est donc consolidée depuis la fin du 19e siècle, c'était de permettre aux travailleurs non pas d'être tout seul face à un employeur, mais de constituer un collectif. Alors collectif dans l'entreprise, collectif au niveau de la branche et ensuite collectif au niveau de la loi. On avait une hiérarchie qui s'imposait où la loi était censée garantir que non, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec vos travailleurs, vous ne pouvez pas considérer que la force de travail de vos salariés est de la marchandise que vous pouvez acheter ou vendre sans commune mesure, vous êtes obligé de respecter un certain nombre de règles. Et avec la loi travail, on a une volonté d'inverser les normes. C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière, on va à nouveau essayer de faire croire qu'un travailleur versus un employeur, c'est une relation symétrique, que les deux sont sur un pied d'égalité. Et ça, c'est vraiment un énorme danger pour le travail en France, puisque, bien sûr, quand vous êtes tout seul face à votre chef d'entreprise, vous n'avez pas la puissance du syndicat qui peut vous défendre, vous n'avez pas la loi qui peut vous défendre. Et dans ce cas-là, vous pouvez accepter des régressions très importantes. Vous êtes contraint d'accepter des reculs dans votre situation au travail.
D'accord, je voudrais revenir maintenant sur l'article que j'ai cité en introduction, là, le chômage, la faute au code du travail ou au marché financier. On lit donc que c'est plutôt les dividendes qui ne sont pas flexibles. C'est une adresse directe à ceux qui touchent les dividendes, les actionnaires, et ce mettant là qu'ils soient d'accord avec ça, non?
Ah oui, non, mais alors là, c'est sûr qu'ils vont pas être d'accord avec ce postulat. Vous avez en réalité beaucoup d'études qui vont dans le même sens que ce qu'on a écrit dans cet article pour Alter Eco Plus, mais vous avez aussi, bien sûr, des espèces de chiens de garde du capital qui vont vous dire « mais non, les dividendes n'ont pas tant augmenté que ça, les dividendes sont légitimes pour telle ou telle raison ». En réalité, quand on regarde dans le détail les chiffres, au niveau de l'ensemble des entreprises françaises, on se rend compte d'une véritable envolée des dividendes ces 40 dernières années. Sur le montant total des profits qui est réalisé chaque année, la part qui part en dividendes, donc la partie qui va aux actionnaires, encore qu'il y a d'autres éléments qui vont aux actionnaires, mais uniquement sous la forme de dividendes, la part des profits qui va en dividendes a plus que triplé entre 1970 et 2010. Donc on a vraiment eu une tendance à l'augmentation de la distribution de dividendes, qui est un problème pour les entreprises, puisque bien évidemment, si vous devez distribuer toujours plus de dividendes, eh bien vous ne pourrez pas investir autant qu'avant. Et vous ne pourrez pas reconstituer votre capital productif, vous ne pourrez pas acquérir de nouvelles machines, réaliser de nouveaux process de production plus compétitifs. Et c'est comme ça que vous risquez de, petit à petit, voir vos parts de marché à l'international diminuer et donc voir la situation de votre entreprise fragilisée.
Oui, donc on est bien dans une situation un peu bizarre, c'est pas bizarre du tout d'ailleurs, dans la situation actuelle, on a des dividendes qui ne sont pas réinvestis, on a des profits qui n'est pas réinvestis dans les entreprises, c'est ça que j'entends.
Oui, c'est ça. En fait, vous aviez dans la période qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire la période d'après Deuxième Guerre mondiale jusque au milieu des années 70, vous aviez une maxime qui était appliquée dans les entreprises, qui était de réinvestir les profits. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire du profit, mais vous devez le réinvestir dans l'entreprise pour augmenter les capacités de production, pour accroître un peu la taille de l'entreprise et donc gagner en part de marché, avec l'idée que l'entreprise, elle a un destin collectif à mener à bien, elle doit essayer au maximum de perpétuer sa place dans la société. Alors ça, c'est ce qui avait cours dans les 30 Glorieuses, c'est aussi ce qui avait cours au 19e siècle. Alors c'est ce qu'on a pu appeler au 19e siècle le compromis victorien, ou c'est ce qu'on a appelé dans l'après-deuxième guerre mondiale le compromis fordiste. Mais cet accord un peu implicite entre salariés et grand capital, cet accord est tombé à l'eau à partir des années 70, début des années 80. On a vu arriver une nouvelle maxime dans les entreprises. Cette maxime, alors c'est de l'anglais, mais je vais vous le traduire rapidement, c'est ce qu'on appelle la maxime du downsize and distribute. Alors downsize and distribute, downsize, ça veut dire réduire la taille, donc réduire la voilure de l'entreprise et arrêter d'essayer de viser des grandes entreprises, des grands conglomérats qui touchent un peu à tout dans l'entreprise, et distribute, donc c'est distribuer les dividendes. Donc plutôt que de chercher à faire des grands conglomérats qui vont réinvestir leurs profits, les nouvelles entreprises, depuis les années 80, ce qu'elles doivent faire, eh bien, c'est réduire la voilure, se concentrer sur les seuls projets d'investissement les plus rentables, hein, ceux qui vont dégager suffisamment de cash pour être ensuite redistribués aux actionnaires, et puis donc distribuer les profits aux actionnaires. Puisque vous n'investissez plus autant qu'avant, les profits que vous allez réaliser, vous n'avez plus besoin d'eux pour financer l'investissement, et ces profits, au lieu de financer un investissement qui est réduit, ces profits doivent être dirigés vers le versement de dividendes aux actionnaires. Donc c'est ça la maxime downsize and distribute qui s'est imposée depuis les années 80 dans le capitalisme français, mais aussi, bien sûr, cette fois-ci, ça vient aussi du modèle anglo-saxon, ça vient des États-Unis, cette histoire du downsize and distribute.
Oui, et puis dans le downsize, il y a les effectifs qui s'envolent également.
Ah bien sûr, si vous réduisez la voilure, si vous arrêtez d'investir, vous aurez aussi moins besoin de salariés. Donc vous avez cette logique d'avoir des petites entreprises qui vont être en tête sur un cœur de métier. Pas forcément le métier historique d'une entreprise. Vous pouvez avoir aux États-Unis un exemple comme General Electric. Donc à l'époque, c'était une entreprise d'électricité, l'équivalent de notre EDF. Eh bien cette entreprise, elle s'est progressivement recentrée comme une société financière qui fait du crédit. Et donc c'est très étonnant comme parcours. Vous avez l'idée que vous n'êtes pas forcément dans une entreprise qui fera toujours la même chose, mais vous avez l'idée que l'entreprise, elle doit aller vers les activités les plus rentables, quitte à abandonner son cœur de métier historique.
Une question
on a à peu près le même genre de choses en France avec Vivendi, qui a progressivement été se déplacer sur le secteur des médias.
Une question de René.
Son camp de base historique.
Excusez-moi. René, tu poses ta question alors.
Oui, mais justement, les entreprises qui choisissent cette formule de réduire la voilure pour privilégier leur actionnariat risquent-elles pas de devenir moins compétitives par rapport à leurs concurrents puisqu'elles n'investissent plus?
Oui, eh bien, c'est là où en fait, il faut ajouter une variable, c'est que les actionnaires, ils s'en moquent de leurs entreprises.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il faut se dire que l'actionnaire, pour le coup, la figure de l'actionnaire engagé à long terme dans l'entreprise, ça n'existe quasiment plus. Je peux vous donner quelques chiffres que nous citons dans notre bouquin. En 1960, la durée de détention moyenne d'une action aux États-Unis, c'était 7 ans. Donc quand vous achetiez une action, vous la gardez dans votre portefeuille pendant 7 ans. C'était ça un actionnaire. Maintenant, la durée de détention moyenne d'une action aux États-Unis, c'est 7 mois. C'est-à-dire qu'en moyenne, les actionnaires n'accompagnent les entreprises que sur 7 mois. Et ça, c'est bien une moyenne. Vous avez encore des actionnaires qui ne font pas bouger leur portefeuille, qui restent détenteurs de la même action pendant des années et des années. Mais en moyenne, la durée de détention est tombée à 7 mois. C'est-à-dire que vous avez vraiment, pour les actionnaires, beaucoup, beaucoup de transactions, un activisme à l'achat et à la revente des titres qui est très important. Ce qui veut dire que les entreprises dont ils sont actionnaires, ils s'en moquent totalement. Vous allez être actionnaire dans une entreprise, vous allez la presser, c'est-à-dire arrêter d'investir parce que on n'a pas besoin de projets d'investissement qui ramènent du 2-3%. Nous, ce qu'on veut, c'est des projets d'investissement qui ramènent du 15%, du 20%. Donc, n'entreprenez que ces projets d'investissement ultra rentables, investissez beaucoup moins de salariés, et rendez-nous tout le cash en dividendes. Bien sûr, l'entreprise, ça va la mettre en difficulté, et une fois que l'entreprise est trop en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On va revendre son titre. On revend l'action de cette entreprise sur les marchés et on va aller adopter le même comportement ailleurs. On va vraiment avoir un comportement actionnarial de type parasite, de type prédateur. C'est on se met sur une entreprise, on en tire tout ce qu'on a en tiré et après on la jette. On va faire la même chose ailleurs.
Oui, c'est
une politique de la terre brûlée.
Ouais, c'est une forme de pillage, disait René. Effectivement, on avait trouvé au milieu de votre article à tous les trois une phrase qui ne peut pas passer inaperçue. Les actionnaires ne sont pas propriétaires des entreprises, mais seulement de leurs actions. C'est absolument la démonstration que tu viens de faire, ce qui contrebalance sérieusement ce qu'on apprend à l'école et à l'université, qu'un actionnaire est propriétaire d'une partie d'entreprise.
Oui, alors ce que cette histoire de la propriété de l'actionnaire sur l'entreprise, en réalité, c'est autre chose. Hein. C'est un point beaucoup plus technique qu'on doit à Jean-Philippe Probet, qui est avocat, donc spécialiste du droit des entreprises, et qui a montré que, en fait, en droit, l'entreprise n'a pas de propriétaire. C'est quelque chose de très particulier, mais l'entreprise n'est pas un objet juridique, n'est pas un sujet juridique. Par contre, la société, donc la forme société, hein, société anonyme notamment, elle, c'est un objet de droit. Mais l'actionnaire n'est propriétaire que de son action. Il n'est pas propriétaire de l'entreprise elle-même. Et c'est ici quelque chose de très intéressant, puisque les actionnaires n'ont pas tous les droits sur l'entreprise. On ne peut pas dire que, puisque l'actionnaire détient une action, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son entreprise. Ça n'est pas vrai. L'actionnaire a des droits, mais il n'a pas tous les droits. Et parmi les droits de l'actionnaire, celui qu'on peut aussi nous vendre fréquemment, hein, c'est le mythe de la démocratie actionnariale. Finalement, si tous les salariés devenaient actionnaires de leur propre entreprise, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque les actionnaires salariés auraient leur droit de vote en Assemblée Générale et tout irait bien. Simplement, ce qu'on oublie trop souvent quand on essaye de vendre ce mythe de la démocratie actionnariale, c'est que la démocratie qui s'exerce dans l'entreprise, elle est très particulière pour les actionnaires. La démocratie politique, normalement la vraie démocratie politique, c'est un homme égale une voix. Chaque individu compte à la même hauteur dans les suffrages exprimés. Dans la démocratie actionnariale, c'est pas ça du tout. C'est une action égale une voix. C'est-à-dire que si vous avez un portefeuille d'actions très rempli, ben vous allez peser plus que votre voisin. Donc c'est une forme de démocratie censitaire, l'entreprise. Donc même si on essaye de pousser à l'actionnariat salarié, les actionnaires salariés, ils vont pas peser bien lourd par rapport aux fonds de pension américains ou par rapport aux compagnies d'assurance françaises. Donc il faut vraiment essayer de désamorcer au maximum cette idée de la démocratie actionnariale qui pourrait nous sauver.
D'accord. Effectivement, alors l'autre point qui nous semblait fort important, c'est un des sous-titres de l'article, c'est la financiarisation de l'économie. On en voit bien l'idée avec ce que tu viens de nous dire, mais est-ce qu'on pourrait peut-être un peu plus précis que ça?
Ah, bah alors la financiarisation de l'économie, si on revient à l'origine du phénomène, hein, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est au niveau des années 80. Au début des années 80, on s'est mis, alors le mouvement part des États-Unis, comme souvent, il a été récupéré en France au milieu des années 80, mais on s'est mis à vouloir déréguler les marchés financiers, déréglementer les marchés financiers, les libérer, hein, si vous voulez reprendre le vocabulaire libéral, justement. Donc on a voulu déréglementer les marchés financiers en pensant que la libéralisation financière permettrait d'obtenir plus de croissance, permettrait aussi de faciliter le financement des États. Donc il y avait beaucoup de promesses avec cette libéralisation financière, faciliter un peu le travail des banques, faciliter le travail des assurances, permettre aux banques de faire des métiers d'assurance, permettre aux assurances de faire aussi le métier de banquier. Bref, on a essayé de rompre les barrières, hein, de décloisonner toutes les activités financières pour faciliter le travail des financiers, justement. Le problème, c'est que les résultats, les belles promesses qu'on nous a vendues dans les années 80, on ne les a pas retrouvées. On nous a un peu menés en bateau. La libéralisation financière, elle n'a pas été favorable pour l'économie. Et ce qui est l'origine, ce qui est la cause profonde du manque de résultats de la libéralisation financière, c'est justement ce qui se passe dans les entreprises. Vos entreprises, elles n'investissent plus assez. Et si les entreprises n'investissent plus, eh bien vous aurez moins de croissance. Le deuxième phénomène que vous retrouvez avec la financiarisation, c'est que si les entreprises sont pressées par leurs actionnaires pour investir moins, elles sont aussi pressées par leurs actionnaires, quelque part, pour verser moins de salaires. Donc la pression financière liée à cette libéralisation financière, elle pousse à la fois les entreprises à moins investir, mais aussi à verser moins de salaires. Donc une économie où vous n'avez pas beaucoup d'investissements de la part des entreprises, où vous n'avez pas beaucoup de salaires distribués aux salariés, elle ne marche pas droit. Elle ne peut pas compter sur des moteurs très puissants en termes de croissance économique. Et donc nécessairement, ça va pousser à une montée du chômage.
Oui, alors, j'essaie de me résumer un peu ce que tu nous dis. Donc ça veut dire qu'on est dans un investissement qui sont de plus en plus bloqués. Et pourtant, il y a des profits, tu l'as dit au début, on est bien, les dividendes sont toujours distribués. Je me souviens de l'étude à laquelle tu as participé sur le surcoût du capital. Je crois qu'on est dans ce cas-là, non ?
Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on a une part des profits qui va en distribution de dividendes qui dépasse ce qui pourrait être jugé légitime de la part des standards historiques, de la part des moyennes historiques. On est vraiment dans une configuration du capitalisme très particulière où les actionnaires ne s'enrichissent pas parce que leurs entreprises s'enrichissent, mais les actionnaires s'enrichissent parce qu'ils prélèvent une part de plus en plus importante de la richesse créée. Donc il y a vraiment un phénomène de modification de la répartition des richesses. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux ici. C'est-à-dire que vous avez, on pourrait faire le lien avec ce qu'a dit Piketty sur les inégalités, vous avez une part de la société qui va progressivement s'enrichir de plus en plus, puisque tout le monde n'est pas actionnaire. Ceux qui vont toucher les dividendes de plus en plus élevés, c'est pas n'importe qui. Hein. Faut tout de suite sortir, encore une fois, de l'imaginaire du petit actionnaire, de la veuve de Carpentras qui attend de toucher ses petits dividendes pour aller faire ses courses au supermarché du coin. Bien sûr que non, ce n'est pas ça l'actionnaire. Aujourd'hui, ceux qui composent l'actionnariat des sociétés européennes et américaines, ce sont ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Les grandes compagnies d'assurance françaises, et aussi, surtout, les grands fonds de pension américains. C'est pas une vue de l'esprit de dire que la financiarisation, c'est avant tout menée par les fonds de pension américains. Pour vous donner juste un chiffre, même si ce genre de chiffre, après, fait perdre tout de suite tout contexte avec la réalité, mais les fonds de pension américains représentent 10 000 milliards de dollars d'actifs. C'est-à-dire 5 fois plus que le PIB français. Donc c'est quelque chose d'énorme, ce que représentent les investisseurs institutionnels, les nouveaux actionnaires.
Oui, alors effectivement, 10 000 milliards, oui, 5 fois le PIB français. Ce qu'on apprend aussi aujourd'hui, c'est que, enfin, ce qu'on comprend bien, nous, à Attac, c'est l'histoire la nuisance de la finance internationale. Mais ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que ça se voit dès le niveau de l'entreprise, en fait.
Oui, en fait, il y a un bouclage qui s'opère entre le niveau de l'entreprise, le niveau microéconomique, et le niveau macroéconomique de l'ensemble du système économique. Mais on voit bien que cette pression de la finance sur l'entreprise au niveau des boîtes, c'est ce qui ensuite entraîne un régime de manque de croissance au niveau macroéconomique. C'est parce que les entreprises sont en difficulté, à cause de la finance, qu'on va avoir des gens qui vont se retrouver sur le carreau au niveau de l'emploi.
Oui, des entreprises qui ferment de toute façon en plus, puisqu'elles ne sont plus compétitives ou elles n'ont plus le moyen d'accéder à un profit raisonnable pour pouvoir continuer. Puisqu'effectivement, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est bien des entreprises qui font des bénéfices et qui licencient et qui ferment.
Oui, parce que en plus de ça, dans la logique de la financiarisation, on retrouve une contradiction absolue dans les termes, une course à l'échalote qui n'a jamais de fin. Ce qu'on demande aux entreprises, c'est pas d'être rentable. Ce qu'on demande aux entreprises, quand on est un actionnaire gourmand, c'est d'être toujours plus rentable, d'être en particulier plus rentable que l'entreprise voisine. Vous avez donc des grands fonds d'investissement, des grands fonds de pension, des grandes compagnies d'assurance française. Vous avez donc des investisseurs institutionnels qui ont le choix pour placer leurs fonds dans plusieurs entreprises, mettons on va dire Total et le Crédit Agricole. Donc vous avez le choix, vous avez 10 milliards d'euros à placer, est-ce que vous allez l'investir à Total ou au Crédit Agricole ? Ben, vous allez essayer de l'investir dans l'entreprise qui est la plus rentable. Donc vous pouvez avoir deux entreprises qui sont rentables, hein, qui produisent du 5% de rentabilité, mais ce qui va vous intéresser, c'est une entreprise qui va produire éventuellement du 6% de rentabilité. Et s'il existe une entreprise qui produit du 7% de rentabilité, ben, c'est là que vous allez aller. Et donc toutes les entreprises sont un peu prises dans cette contradiction, qu'elles doivent en permanence essayer de faire plus que la moyenne. Voilà ce que cherchent les actionnaires. Des placements financiers qui sont meilleurs que la moyenne. Mais mathématiquement, c'est impossible que tout le monde fasse mieux que la moyenne. Tout le monde ne peut pas battre la moyenne du marché. Et ça, ça a tendance à pousser les rendements exigés aux entreprises sans cesse plus haut. Donc vous êtes une entreprise rentable, mais on peut vous menacer de délocalisation ailleurs parce que vous êtes un peu moins rentable que l'entreprise concurrente.
Oui, est-ce que actuellement d'ailleurs les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension en sont pas exigés des retours sur investissement de 15 à 20% voire plus?
Alors ça c'est ce qu'on disait avant, effectivement, c'était le fameux 15% de retour sur fonds propres qui était réclamé aux entreprises. Alors en ce moment, vraiment là dans l'actualité hein, de ces derniers mois, il commence à y avoir un petit problème pour ces fonds, c'est qu'on est entré dans une phase où les taux d'intérêt sont très bas. Et quand les taux d'intérêt sont extrêmement bas, il devient très difficile d'obtenir ce genre de rendement. Donc ces rendements, ils ont été obtenus hein, durant la décennie 2000, mais depuis la baisse massive des taux d'intérêt, le taux d'intérêt c'est un peu la variable clé en finance, hein, on se rapporte toujours au taux d'intérêt pour évaluer les rendements, et bien quand on a des taux d'intérêt très bas, c'est dur de continuer à obtenir ces rendements de 15-20%, et donc ça peut menacer à terme les modèles économiques des fonds d'investissement, les modèles économiques en particulier des fonds de pension, qui doivent verser des retraites aux gens qui ont cotisé au fonds de pension, et avec des taux d'intérêt qui baissent, ça sera la rentabilité des placements de ces fonds de pension qui va baisser, et qui pourrait menacer la capacité de ces fonds de pension à payer leur retraite à la fin de la maturité du fonds.
Entendu. Alors, il y a un autre aspect économique. À lire des gens comme Elieta, il y a aussi un endettement considérable aussi des ménages et des entreprises.
Ah, bien sûr. En fait, je vous parlais tout à l'heure, donc on est dans un régime financiarisé depuis les années 80 où on a moins d'investissements et moins de consommation. Un régime comme ça, il va se casser la figure totalement. Et ce qui est bizarre à entendre, hein, c'est qu'en fait, la situation, elle n'est pas aussi catastrophique qu'elle devrait l'être. La finance, si on la laissait fonctionner sans corriger ses déséquilibres, elle nous mènerait tout de suite dans le mur. Tout de suite avec un chômage massif, encore plus massif que ce qu'on a actuellement, avec une croissance totalement à l'arrêt. Mais vous avez eu, depuis les années 80, vous avez eu des moteurs auxiliaires qui se sont mis en route pour essayer de quand même pousser un peu la croissance économique, pousser un peu l'emploi. Alors ça a pris différentes formes selon les pays, mais ce qui a été fait quasiment partout, c'est une montée de l'endettement. Montée de l'endettement public, en Europe, aux États-Unis également, montée aussi de l'endettement privé, et c'est surtout de celui-là qu'il faut parler. C'est-à-dire que vous avez vu se développer des bulles d'endettement privé, notamment pour les ménages, avec un mécanisme tout bête. Vos ménages, on arrête de leur verser des salaires, donc ils ne vont pas pouvoir consommer sur les salaires qu'on leur verse moins qu'avant. Par contre, ils vont continuer à consommer, mais en s'endettant. Et donc vous avez vu se développer aux États-Unis, au Royaume-Uni, également en France, une augmentation de l'endettement des ménages pour continuer à consommer. Avec des jeux, en plus de ça, ce qu'on appelle des dépenses en cascade. La consommation des ménages, elle est toujours relative. Je vous parlais tout à l'heure des entreprises qui essayent de faire plus que la moyenne. Eh bien, au niveau des ménages, chaque ménage va essayer de consommer plus que son voisin. Il y a eu un consumérisme, c'est fortement le cas dans les pays anglo-saxons, mais ça arrive aussi en France. Hein. Vous avez un consumérisme qui va vous pousser à vouloir consommer toujours plus, à avoir une voiture un peu plus grosse que celle du voisin, à avoir un appartement un peu plus grand que celui du voisin, etc. etc. Donc ce genre de comportement mimétique dans la consommation, ça a poussé à consommer plus, non pas avec des salaires qui augmentaient, hein, puisque les salaires n'augmentaient pas, mais avec un recours plus grand à l'endettement. Et bien sûr, cette bulle de l'endettement, ça ne peut durer qu'un temps. Hein. Le propre d'une bulle, c'est d'exploser. Et ce qu'on a sous les yeux depuis 2008, c'est l'explosion d'une bulle, non pas pour du crédit à la consommation, hein, mais d'une bulle pour du crédit immobilier. Donc des comportements mimétiques aux États-Unis, où tout le monde essayait d'avoir une maison plus grande que le voisin, ou d'avoir plus de maisons que le voisin. Et tout ça, ça a éclaté au moment de la crise des subprimes.
Donc en France, ça existe, mais un peu moins en fait, puisqu'il y a encore un taux d'épargne toujours assez conséquent en France, bien supérieur à celui des États-Unis.
Voilà, alors en France, on a un peu de, comme toujours, on a un peu de retard hein, dans le dispositif. C'est-à-dire qu'on avait historiquement un taux d'épargne qui était très élevé en France, et qui était même assez incompréhensible, puisque l'épargne en général des ménages, ça sert à préparer l'avenir. Ça sert à préparer la retraite, ça sert à préparer les coups durs en cas de pépins de santé. Et le système de protection sociale français était plutôt généreux. On avait un système de retraite par répartition, on avait un système de santé extrêmement performant. Donc on comprenait pas, en tant qu'économiste, pourquoi les Français épargnaient autant dans les années 80-90. C'était un peu une énigme. Mais depuis les années 2000, le taux d'épargne français baisse régulièrement.
Et l'endettement augmente.
Il baisse régulièrement. Alors c'est pas forcément parce que les ménages français souhaitent moins épargner, hein. C'est parce que les ménages français sont contraints d'épargner moins. Si vous êtes obligé de consommer au même rythme qu'avant pour conserver votre place hein, dans la pyramide sociale, avec des nouveaux besoins qui apparaissent, avec des téléphones portables, avec l'internet à domicile, etc. Tout un tas de nouveaux modes de consommation qui sont popularisés un peu partout dans les médias ou par les plus riches qu'on souhaite imiter, eh bien, toutes ces consommations, elles vont venir amoindrir l'épargne des ménages français. Et donc vous avez certes un processus qui est moins engagé qu'aux États-Unis, mais vous avez aussi connu en France une augmentation assez nette de l'endettement des ménages, avec baisse de leur taux d'épargne.
Et un mot sur l'endettement des entreprises, alors ?
Ben, les entreprises, en fait, elles se sont endettées aussi, même si pour les entreprises, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. La dette des entreprises, ça peut être une dette qui est là pour essayer de profiter des conditions monétaires. Quand vous avez un taux d'intérêt qui baisse, comme c'est le cas actuellement, ça peut être intéressant de s'endetter à long terme. Puisque pour que les projets d'investissement soient rentables, il faut simplement qu'ils battent le taux d'intérêt. Avec un taux d'intérêt à 2%, battre le taux d'intérêt, c'est plus facile qu'avec un taux d'intérêt de 7-8%. Donc la dette des entreprises, elle a eu tendance à augmenter, mais c'est pas forcément uniquement pour les histoires d'investissement. Vous pouvez avoir une dette des entreprises qui a augmenté pour opérer ce qu'on appelle des rachats d'actions. Donc c'est une autre manière de rendre de l'argent aux actionnaires. Vous n'avez pas uniquement la possibilité de leur distribuer une part des profits sous la forme de dividendes. Vous pouvez aussi décider de diminuer le nombre de vos actionnaires, c'est-à-dire de racheter les actions à certains des actionnaires existants, leur rendre un peu de l'argent, et ce qui plaira beaucoup aux actionnaires qui resteront dans l'entreprise, puisqu'avec moins d'actions, eh bien c'est le cours de l'action qui va partir à la hausse. Vous avez eu aussi une autre utilisation de l'endettement des entreprises, hein, lui aussi, donc qui a eu tendance à augmenter, c'est que des entreprises se sont mises à faire des choses un peu étranges, c'est-à-dire à se transformer un peu en société financière. Une entreprise, normalement, c'est, si je schématise à outrance, hein, un ensemble de locaux, un ensemble de machines, un ensemble de salariés. Et ça sert à produire des biens et des services. Et les entreprises, grâce au taux d'intérêt bas et grâce aux performances des marchés financiers, se sont dit que plutôt que de s'endetter pour acheter des machines et produire des biens et services, on pouvait s'endetter pour acheter des actifs financiers. Donc vous avez en France, hein, c'est très net ce qui s'est passé en France, vous avez des entreprises qui se sont endettées, non pas pour acheter des machines, mais pour acheter des actions d'autres entreprises et pour bénéficier de la rentabilité et de ces placements-là. Donc les entreprises qui se transforment un peu en gérants de fonds d'investissement, ce qui n'est pas du tout leur objet initial.
Oui, en effet. Mais je crois qu'on va presque terminer là-dessus. Il nous reste 30 secondes. Alors, les solutions, on va les trouver dans ton bouquin ?
Oui, ben on défend plusieurs solutions, mais ce qui compte, c'est finalement de changer deux points. Changer la gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises ne soient plus dirigées dans le seul intérêt des actionnaires. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de mesures possibles et imaginables hein, là-dessus. Vous pouvez parler de la codétermination, vous pouvez parler des droits de vote bonifiés pour des actionnaires engagés à long terme, vous pouvez éventuellement parler de l'implication d'une banque publique de financement de l'investissement qui se comporterait comme actionnaire patient. Donc tout ça, c'est pour modifier un peu l'équilibre des pouvoirs dans l'entreprise, mais c'est premier axe pour essayer de changer un peu la donne. Et le deuxième axe pour changer la donne, c'est de lutter contre la liquidité des marchés financiers. Donc notre bouquin traite surtout de cet aspect-là. La liquidité des marchés financiers, c'est la capacité des actionnaires à pouvoir revendre rapidement leurs titres. Et c'est ça qui organise un chantage sur les entreprises. Donc il faut pouvoir lutter contre cette liquidité des marchés financiers, contrôler la liquidité des marchés, contrôler plus globalement ce qu'on appelle la mobilité des capitaux. Et si on arrive à ça, eh bien on rééquilibrera encore une fois les pouvoirs dans l'entreprise et on permettra d'arriver à une société quand même beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus équilibrée.
Bien.
Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas une utopie, cette chose-là. Historiquement, on a eu une période où la finance avait été régulée, où la liquidité des marchés financiers était beaucoup moindre qu'actuellement, où les capitaux ne pouvaient pas passer très facilement d'un pays à l'autre. Eh bien, cette période de l'histoire, c'est la période des 30 Glorieuses dont je parlais tout à l'heure, et c'est une période où vous aviez plus de croissance, vous aviez le plein emploi, et les crises financières étaient beaucoup moins fréquentes.
Oui.
Donc, quand la politique veut réguler la finance, elle le peut, et ça donne des résultats.
Ok, on va terminer là-dessus. Merci pour ce dernier message. Effectivement, on est attentif forcément à attaque à ce genre de démarche. Et on conseillera ton bouquin et votre bouquin à tous les trois, parce que j'ai trouvé personnellement très pédagogique et très clair. Merci Thomas, et à bientôt peut-être.
Merci à vous, à bientôt.
Ok, voilà, c'était l'entretien avec Thomas Dallery, encore une fois, un bouquin à acheter, l'entreprise liquidée, du côté de la rue de Valmy, à Lille. Vous pouvez trouver ce genre d'ouvrage. On va faire une pause musicale, Florent, merci.
On m'a donné le revenu minimum pour me payer un repas minimum. Qui ne suis en vrai qu'un minimum. On m'a donné le revenu minimum, juste assez pour que je ne braque personne. Et si je ne me contente pas de cette mini-somme, alors j'en prendrai pour un maximum. Si je pouvais trouver un mini-job, je pourrais me trouver une jolie mot. Je dois vivre une vie en miniature et je dors la nuit dans une boîte à chaussures.
Voilà, c'était Merlot, CDI, entre parenthèses, minimum, qui nous interprétait cette chanson. Merlot, ça ne peut pas être un mauvais type quand on a le nom d'un cépage. René, on va passer donc aux activités d'attaque, en fait.
Oui.
Alors, vas-y. On a eu un appel d'attaque, toutes et tous debout. Tu nous dis un mot?
Oui. Eh bien, suite aux manifestations contre la loi travail, aux occupations des places publiques dans de nombreuses villes, les désormais célèbres Nuits debout, Attaque appelle à rejoindre et à renforcer ce mouvement qui doit s'étendre et se pérenniser. Car le temps de la négociation et du compromis est dépassé. L'oligarchie qui nous gouverne n'est plus un interlocuteur, préoccupé de ses seuls intérêts, incapable de faire face aux grands enjeux mondiaux, du réchauffement climatique au drame des migrants, en passant par le creusement des inégalités et l'explosion de la précarité.
Des attitudes des gouvernants incohérentes, on va y revenir, de l'incurie, de l'injustice. À tout le monde, des gens comme nous, en tout cas, on a envie de renverser la table.
Oui, et pour cela, la désobéissance devient un devoir. Pour cela, Attaque a procédé aux réquisitions de chaises dans les banques il y a quelques mois. Pour cela, nous avons occupé la banque privée de la Société Générale de Paris Bourse le jeudi 7 avril, suite aux révélations de Panama Papers, et que nous appelons à des actions similaires dans les 103 agences privées de la Société Générale en France. Que nous avons ridiculisé la conférence « L'éthique ou conduite pour une culture de la responsabilité » tenue à la Fédération bancaire française le jeudi 14 avril.
Alors les banques se préoccupent donc d'éthique et de responsabilité, c'est une blague ça?
Non, c'est plutôt du cynisme. Le même cynisme sans doute, le même mépris de la réalité qui a conduit, 3 mois après la COP21, les sociétés pétrolières et gazières à tenir ce sommet du pétrole offshore, à Pau, du 5 au 7 avril. Et que nous avons réussi, Attaque et d'autres organisations, à perturber sérieusement.
Oui, en effet, hein, René, 700 personnes mobilisées dans l'urgence, ont réussi à bouleverser un peu l'ordre du jour de ce fameux Marine Construction and Engineering for Deep Water Development, etc. Avec Attaque, tu l'as dit, Busy aussi était très présent.
Oui.
Il y a vraiment une critique, c'est insupportable de faire des sommets comme ça après la COP21.
Et les Amis de la Terre aussi.
Ah, les Amis de la Terre, oui, forcément, oui.
Eh bien, nous dirons que nous avons besoin de lieux pour libérer notre parole et écrire de nouveaux récits, d'utopies concrètes pour refonder un vivre ensemble. Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action. Nous commençons ainsi à refonder la politique.
Ok, encore un mot. Hein. Lisez l'article de Politis de cette semaine sur justement cette réunion à Pau. Alors, et le plan local, alors, ça se concrétise donc?
Ah oui, alors Lille a connu sa première nuit debout le samedi 9 avril.
Ah ouais, j'y étais aussi.
Place de la
Grand,
République.
D'ailleurs.
Oui. Après la manifestation contre la loi travail. Et depuis, chaque soir, l'occupation se poursuit par des lectures en public sur des thèmes divers, des temps de parole libres et des assemblées générales. L'amphi Archimède à Lille 1 est toujours occupé. Les 3 comités locaux attaques de la métropole ainsi que plusieurs organisations ont apporté leur soutien au mouvement. Et dernière nouvelle, Nuit debout s'est invité au Palais des Beaux-Arts pour contester le projet de candidature française à l'exposition universelle. Et a interpellé Martine Aubry.
Oui, qui soutient cette exposition, c'est pas possible. Alors le mouvement s'inscrit dans la durée, donc ce week-end, il va se passer quelque chose peut-être.
Oui, toujours place de la République. Alors lecture en public de 17h30 à 18h30 le samedi, ce sera sur le thème du printemps, et dimanche sur le travail. Et à 20h, assemblée générale et temps de parole libre avec certainement d'autres activités. Mieux encore, on propose aux comités locaux d'attaque de tenir leurs réunions sur les lieux d'occupation pour créer des connexions, des liens, etc. Et aussi de les déclarer lieux hors TAFTA. On y pense sérieusement ici sur la métropole.
Alors, on parle de créer, tu dis, des lieux hors taffeta, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a du nouveau collectif local, même régional d'ailleurs, Stop Taffeta ?
Oui, déjà le collectif a profité des manifestations contre la loi travail pour diffuser ses tracts. Et nous étions également présents à Nuit Debout, samedi et dimanche, où la diffusion a rencontré un vif intérêt de la part des passants. Et bien sûr, si Nuit Debout déclare la place de la République lieu hors taffeta, nous serons d'autant plus impliqués. Les actions au niveau des communes, donc ma ville hors taffeta, se poursuivent. Demain, une diffusion sera réalisée à Lambersart à l'occasion de la braderie du quartier Château-Vergel. Les camarades d'Attaque Roubaix-Tourcoing ont obtenu une entrevue le 11 avril avec le premier adjoint de la ville de Tourcoing. Ils ont rencontré une oreille attentive, nous ont-ils dit. Un nouveau rendez-vous est prévu pour juin. À LM, une motion devrait être déposée par Europe Écologie Les Verts et les gens d'LM. D'autres moyens sont envisagés pour rencontrer les élus. Les permanences des maires, assister aux conseils municipaux. Et c'est déjà prévu pour Waterloo, dont la réunion du conseil se tiendra le 28 avril.
Et Waterloo, dont le maire a dit que les Waterloosiens ne sont pas concernés par taffeta. Il fallait quand même le faire. Alors, il y a d'autres actions, René ?
Oui, bien sûr.
Bon, bah alors, et la prochaine manif contre la loi du travail ?
Eh bien, elle est prévue le jeudi 28 avril, et le collectif sera bien sûr présent avec ses tracts.
Et distribuera des tracts, c'est ce que j'allais dire. Encore un mot, puisque j'ai parlé de Politis. Le Politis cette semaine est vraiment très intéressant. Il y a un bon dossier sur les migrants et Politis a fait une interview de ce courageux maire de Grande-Synthe qui veut, lui, faire mieux que ce qu'a fait le gouvernement français, c'est pas difficile, pour les migrants à Grande-Synthe, près de Calais. Et bien maintenant, on va repasser à Florent. Florent, j'ai parlé tout à l'heure de ton agression scandaleuse. C'est quand même vrai que le chef d'inculpation, c'était agression des forces de l'ordre ?
Oui, c'est vrai. C'est d'autant plus scandaleux que, en fait, c'est eux qui m'ont agressé. Hein. J'ai tout simplement glissé. On a couru. J'ai tout simplement glissé sur les pavés. Et ils sont quatre flics s'est rué sur moi pour me frapper alors que j'étais déjà à terre.
Ah, tu dis quatre. Moi, j'avais dit cinq, mais apparemment, c'était suffisant quand même. Oui, effectivement, il y a des photos absolument parlantes.
Dites et donc, alors, à 4 contre 1, c'est pas mal.
Oui, mais hey, Florent, il est costaud hein, quand même. Tu as été en garde à vue en plus.
Oui, une garde à vue qui a duré 7 heures avec prise des empreintes digitales et de l'ADN.
De ton ADN, c'est
pas
vrai.
De mon ADN, oui, tout à fait. Parce que bon, maintenant c'est la loi, on prend systématiquement l'ADN des gens en garde à vue. Et voilà, ils hésitaient à me libérer avant ou après la fin de la manifestation classique syndicale. Hein. Et bon, ils m'ont quand même libéré vers 15h30, alors que la manifestation était en cours. Ils sont quand même gentils, hein.
Oui, ça ne m'étonne pas. Non, mais on est quand même, on marche sur la tête. Effectivement, on l'a déjà vu avec cette loi Savary qu'on assimile les fraudeurs à des terroristes. Ici, avec ta prise d'empreinte ADN, on assimile un criminel à un mec qui fait une manif. Il y a quand même beaucoup de problème en France, on parlait d'injustice avec René tout à l'heure, on est complètement dedans, quoi. C'est absolument insupportable.
Il y a un sérieux problème d'atteinte aux droits de l'homme.
Aux droits de l'homme, tout simplement, oui, bien sûr. Enfin, tout simplement. Et il y a une suite, Florent, à ton histoire, là ?
Oui, alors j'ai déposé une plainte, hein, donc l'avocate que j'ai engagée à l'envoyer...
T'as engagée, elle était commis d'office.
Ouais. Ah non, pas celle-là.
Hein. Ah attends,
oui,
d'accord, pardon.
Oui, pendant la garde à vue, j'avais une avocate commise d'office, mais là c'est une qui est spécialisée dans les violences policières sur l'île, qui s'occupe de ça. Et du coup, voilà, elle a déposé une plainte directement au procureur, c'est en cours, et voilà, je devrais avoir... dans pas longtemps, une audition normalement de l'IGPN.
D'accord. Ben voilà, des nouvelles du front, en fait, on va dire comme ça maintenant. Hein,
oui.
Avec, c'est même plus un gag, avec cette violence qui nous inquiète tous, nous, les associations. Et puis, quand Florent, dont tout le monde sait que c'est le meilleur des garçons et qui prône l'action non violente partout, on est quand même scié, quoi. Mmh. Florent, tu as quelques minutes, pour quatre en fait, pour nous parler de l'agenda militant.
Bah, c'est parti alors. Donc toujours sur les luttes sociales, projection de Goodyear, La mort au bout de la chaîne, au Méliès, le vendredi 29 avril à 20h. Donc ce film de 52 minutes de Mourad Lafitte, donc carte blanche lors cette soir-là à l'Union syndicale solidaire et rencontre débat en présence du réalisateur. Également, lancement du festival Les mauvais jours finiront, les 29, 30 avril et 1er mai, au programme de ces trois jours, projection, débat, concert, cantine et manifestation. Et dans un peu plus d'un mois, le vendredi 20 mai à 20h30, projection d'un documentaire intitulé Les ateliers, une aventure made in France. En janvier 2012, c'est la liquidation du dernier atelier de lingerie industrielle haut de gamme en France. Le Bagi délocalise 98% de la production et se fera en Tunisie. Elle décide alors ensemble de réagir à cette fatalité en portant un projet fou, les ateliers. Elles vont passer de la lutte à la proposition et décident alors de créer un atelier de 25 couturières ex nihilo. Ça sera une entreprise participative. Mais au fait, quelles sont les causes du chômage? C'est le sujet de la conférence le mercredi 27 avril à 20h à la MRES, qui sera organisée par les Amis du Monde Diplomatique avec Frank Van Del Velde, enseignant d'économie à l'Université de Lille 1. Et ce soir, 17h30, à la bouquinerie occupée L'Insoumise, 10 rue d'Arras, Assemblée de lutte, c'est l'occasion d'organiser la convergence des luttes et de planifier les manifestations et actions dans les semaines à venir. Sur un autre sujet, le mercredi 20 avril à 18h30, chez Violette, 19 place Vanneker à Lille, des ateliers de déconstruction des stéréotypes et qui sera en mixité, autour du sujet de la décroissance, partage d'outils très scientifiques et de construction et de déconstruction. Muni d'un thé de fin de journée, autour d'un goûter auberge espagnole dînatoire, nous parlerons d'essentialisme, de la distinction nature-culture, du sexisme, du genre, d'écologie, de féminisme, etc. jusqu'à 20h30 et plus si affinité. C'est en effet la semaine de la décroissance, la semaine prochaine, qui commence donc lundi à 18h, avec le vernissage de l'expo au cinéma L'Univers, suivi à 19h45 d'une conférence « Penser nos mobilités » en présence de Frédéric Héran, économiste des transports, également à l'Université Lille 1, et de Cyprien Richer, géographe au CEREMA. Cette conférence débat introductive de la semaine de la décroissance nous amènera à questionner nos aspirations à la vitesse, à douter de la réalité des urgences dont la vie contemporaine nous abreuve. Le reste du programme de la semaine, mardi à l'AMRES, après le repère café, discussion sur le thème « Machine, ami ou ennemi ». Jeudi, projection de court-métrage à l'univers, « Comment la décroissance ?». Vendredi, discussion à l'Alto Café sur « Hiérarchiser les oppressions, mais pourquoi ?». Samedi 10h, atelier jardinage à l'os et super cantine vegan déambulante dans l'île à partir de 13h contre le gaspillage alimentaire. La semaine sera clôturée par la projection à l'univers de « Vide et l'île » le dimanche à 19h45. Et sur un sujet connexe avec la décroissance, le jeudi 28 avril, conférence sur la gratuité des transports, un enjeu, un combat, à l'espace Marx d'Elem, avec Jean-Louis Sagot-Duvauroux, philosophe, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur cette question, et Alain Brunel. René.
Qui est maire de Le Ward. Un petit message de René d'attaque.
Oui. Alors, on sait combien de personnes sont tuées par an par des guêpes, mais pour les violences policières, on ne sait pas, justement. Alors, quel usage font nos policiers et gendarmes de la force publique dont ils sont dépositaires? La plus grande opacité règne sur le sujet. Nous ne savons pas combien de personnes sont blessées ou tuées lors d'opérations des forces de sécurité. Nous ne savons pas quelles armes sont utilisées, ni à quelle fréquence. Aucune donnée exhaustive n'est davantage publiée quant au nombre de plaintes déposées contre les agents des forces de l'ordre pour des faits de violence, ni quant au nombre, ni au type de sanctions prises à la suite de tels faits. La CAT, donc c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a enquêté sur 89 cas d'usage de la force par des policiers et gendarmes ayant entraîné des blessures graves ou des décès depuis 2005. À ce jour, seuls 7 ont donné lieu à des condamnations judiciaires.
Ok, bien voilà. C'était un petit message qu'on avait oublié, mais qu'on a rajouté juste à l'étang. Florent, René, bon week-end. Et à tout le monde, bon week-end. Prenez